différence.
À toutes et à tous sur les ondes de Radio G 101.5 FM. Vous êtes les bienvenus dans l'émission Les Plantes Vagabondes, proposée par l'association Le Plantis à Étuyer, le coworking rural collaboratif et gourmand incontournable du nord de l'agglomération angevine. Claudie, Christelle et Laura, bref, toute l'équipe du Plantis est ravie de vous retrouver. Deux fois par mois, nous partons en nature, prendre un peu d'air pur, à la découverte des plantes sauvages. Au fil des saisons, nous vous invitons à vous familiariser avec elles à travers leurs légendes, leur mode de vie et leurs usages. Vous retrouverez en fin d'émission la chronique Le bonheur est dans les simples avec Laura, productrice de médicinales et de préparations à base de plantes pour le second volet sur les bourgeons avec la préparation alcoolature. Mon activité d'ingénieur paysagiste me donne la chance de collaborer avec de nombreux intervenants, élus, techniciens et usagers. Elle me permet d'expérimenter, d'observer et d'apprendre tous les jours en compagnie des plantes. Le constat est là, la prise de conscience évolue et nous sommes de plus en plus nombreux à constater la capacité d'adaptation remarquable et la résilience des végétaux. Lorsqu'on invite des plantes sauvages dans nos jardins, nous avons du mal à revenir en arrière. Dans le parc du Plantis, nous avons démarré avec des arbres seuls, au milieu d'une pelouse tondue très rase, devenue sèche et imperméable. Des arbres tristes, car sans plantes compagnes. En 5 ans, l'installation de strates herbacées et arbustives a favorisé l'installation de nombreux oiseaux et butineurs. Les vers de terre ont proliféré sous les tapis de feuilles. Des tapis de lierre terrestres se sont invités et la cour s'est animée de toutes sortes de géraniums qui, étrangement, se sont installés dans les pots laissés à leur disposition. Et là, je vous entends vous exclamer « Géranium, ça existe ailleurs qu'en jardinerie ?» C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, car ils sont nos invités dans cette émission. La grande famille des géraniacées se distingue par un fruit caractéristique pourvu d'un long bec. Comme nous avons pu le constater au fil des émissions, la plupart des noms de plantes trouvent leur origine dans leur lien avec d'autres éléments naturels connus et acceptés par les communautés humaines. C'est ainsi que les trois genres principaux de cette famille ont été baptisés en lien avec les becs d'oiseaux qu'ils évoquaient. Le genre géranium signifie « bec de grue ». Le genre Hérodium évoque, lui, le bec de héron, alors que le genre Pelargonium, originaire d'Afrique du Sud, se traduit quant à lui par bec de cigogne. Qui a dit que la botanique ne rimait pas avec poésie? Les géraniums comptent au moins 430 espèces dans le monde. Ces plantes herbacées, vivaces ou annuelles, colonisent de nombreux habitats sur Terre et se sont même acclimatées jusqu'en Arctique. La plupart des géraniums se développent à partir d'une rosette de feuilles dont la nervation est palmée. En fonction des espèces, elles peuvent être entières, comme le géranium molle ou mollet, ou le géranium rotondifolium, littéralement à feuilles rondes, ou alors très divisées, à l'instar du géranium dissectum ou du géranium robertianum appelé géranium herbarobert. La floraison sous nos climats a lieu de mars à septembre. Les fleurs de géranium sont souvent groupées par deux et sont de symétrie radiale de type 5, avec 5 pétales et 10 étamines fertiles. Ces caractéristiques les distinguent des hérodiums et des pélargoniums dont la symétrie est bilatérale et les étamines moins fertiles. Les géraniums sont des plantes pionnières et pour cela, ont développé une stratégie de propagation très originale appelée autocorie, c'est-à-dire qu'elles projettent elles-mêmes de façon mécanique leurs semences. Chaque fleur dispose d'un organe femelle, le pistil, dont l'axe principal, appelé le pistil, poursuit sa croissance après la floraison. On dit qu'il est accrescent. Et pourquoi donc, me direz-vous ? Eh bien, il faut savoir que la nature ne fait rien pour rien. Tout a un objectif. Et en l'occurrence, ici, il s'agit d'expulser les graines bien accrochées au réceptacle. En poursuivant sa croissance, le style contracte les loges contenant les graines et les expulse d'un coup, les projetant tout autour pour donner ainsi l'année suivante de nouveaux pieds. Malin, non ? Une sorte de technique en saut de puce. Je vous invite à une pause tout en chanson. Sacré géranium, chanté par Dick Hanegan.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipes, je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout bon. Vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien. Pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes. C'est vrai qu'il est seul, ce lapin. Je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins? Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chaud. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
Emblème de la nuit. Ta fleur rougeâtre et sombre, géranium, attend la nuit pour embaumer. Ton parfum est le jour et se répand dans l'ombre. Audite, dites-moi vous qui savez aimer. Dieu, comme cette fleur, n'a-t-il pas fait votre âme ? N'est-il pas vrai qu'à ceux dont le cœur est de flamme, le monde et la clarté sont toujours importuns ? Et n'est-ce pas la nuit, et sous l'œil solitaire de la lune voilée, amante du mystère, que l'amour doit sur nous épancher ses parfums ? Quel beau poème de Lamartine pour évoquer le géranium et sa particularité de parfumer l'air au crépuscule. Alors, pourquoi en priver vos jardins, vos pieds de mur ou vos cours ? Le plus simple est de laisser les espèces spontanées pousser, comme l'herbe à robert, le géranium à feuilles rondes ou à feuilles disséquées. Attention à ne pas confondre avec les géraniums qui fleurissent les balcons, qui ne sont pas des géraniums au sens botanique. Ce sont en réalité des pélargoniums importés d'Afrique du Sud au XVIIe siècle par les Hollandais. Ces étonnants commerçants, experts dans l'acclimatation et la création variétale, les parents européens de l'horticulture. Ah oui, tout le monde s'en tiche à l'époque de ces géraniums exotiques à la floraison rouge et entêtante. En France, ils sont cultivés à Grasse, dans le sud, ou sur l'île de la Réunion. Madame de Staël, en personne, les évoque en ces termes pourrait conduire un importun prétentieux. En vérité, monsieur, vous ressemblez à mon jardinier, qui a cru me faire fête en m'apportant ce matin un pot de géranium. Mais je vous préviens que j'ai renvoyé cette fleur, en le priant de ne plus l'offrir à mes regards. « Et pourquoi donc ?» demanda le jeune homme, tout ébahi. « C'est, monsieur, puisque vous voulez le savoir, que le géranium est une fleur bien vêtue de rouge. Tant qu'on la regarde, elle plaît aux yeux. Mais lorsqu'on la presse légèrement, il n'en sort qu'une odeur importune. » L'engouement pour ces végétaux issus de l'hémisphère sud se poursuit encore aujourd'hui. Il faut attendre le 19e siècle pour distinguer les géraniums des pélargoniums. Il existe de nombreux hybrides de pélargoniums aux parfums surprenants, comme le citron, la fraise ou encore la menthe. Mais revenons à nos géraniums vivaces indigènes à tiges rouges, aux fleurs rouges, roses, violettes ou bleues, comme le géranium pratense, le géranium des prés, qui est arrivé de bien curieuse façon en France. Cette plante pousse naturellement dans les pays d'Europe du Nord, comme l'Allemagne, où elle s'installe volontiers au bord des ruisseaux, dans les prairies calcaires. Avec l'essor des chemins de fer au XIXe siècle, l'Allemagne est devenue le pays avec le réseau le plus étendu d'Europe. Vous apprendrez ainsi que les plantes vagabondes voyagent aussi par le train. Trois guerres successives contre la France ont favorisé son installation dans l'est de la France pour la coloniser ensuite tout entière. Une colonisation toute pacifique, bien entendu. Si vous en voyez pousser, surtout ne l'arrachez pas. C'est une plante qui disparaît avec le réchauffement climatique. Dans nos jardins, les géraniums vivaces constituent de très bons couvre-sols dont la floraison se poursuit tout le printemps et l'été. Il est intéressant, par exemple, de planter le géranium macrorhizome et dont les hybrides sont vendus en jardinerie. Il est temps de retrouver Véronique, adhérente du Plantis, le temps d'une interview sur son métier et son lien avec la nature et une plante printanière dont je vous garde le secret. Écoutons-la. Bonjour Véronique, bienvenue au Plantis, tu es nouvelle adhérente de l'association et donc je voudrais d'abord que tu présentes ton activité professionnelle.
D'accord, alors donc je suis Véronique Fresneau, je suis thérapeute en hypnose intuitive. Je crée et je raconte des contes de guérison dans mon bureau et actuellement je commence à raconter des contes de guérison auprès d'un large public au travers de contes théâtralisés.
Dans l'émission Les Plantes Vagabondes, on aime bien parler de nature, etc. Et dans le cadre de ton métier, est-ce que c'est une opportunité pour toi de partager ton point de vue sur la nature ?
Oui, alors donc oui, pour moi la nature c'est important. C'est pour ça que dans mes contes que j'ai créés, mes contes de guérison, en fait, ça parle de... Ça se passe dans la forêt enchantée et donc dans la forêt et j'ai comment dire, ça me tient à cœur de transmettre au travers de mes contes des choses un peu engagées et là actuellement j'ai un conte théâtralisé que je suis en train de mettre en place et ça parle justement de ça en fait, l'histoire d'un riche baron qui va pas bien parce que en fait lui il aime la nature et les animaux alors que dans son entourage non pas ils aiment pas plus que ça quoi. Et donc, du coup, ce riche baron, dans la forêt, va retrouver une certaine énergie. Ça va lui remonter le moral. Et puis après, ça va lui donner aussi des idées pour être en sa valeur au niveau de la nature. Et il va chercher à inspirer les autres pour que les autres respectent un peu plus la nature, quoi. Donc pour moi c'est quelque chose qui est important de respecter la nature. La nature est quelque chose aussi de très cyclique. Donc voilà, il y a l'hiver, c'est légèrement endormi, printemps ça se réveille, en été ça ça grandit. Et à l'automne, voilà. Donc c'est cyclique. Et les humains sont aussi cycliques. On fonctionne aussi à travers la nature. Donc pour nous, voilà.
En tout cas, c'est un bel axe en fait de thérapie de oui. sur les cycles de la nature. Et je voulais savoir aussi, puisque en ce moment c'est la saison du printemps, est-ce que tu as une plante avec qui tu as tissé un lien en particulier ?
Oui, je pense que c'est le lilas. J'ai quelque chose de particulier avec le lilas. Et d'ailleurs, c'est dans mes histoires de contes, il y a l'histoire d'une princesse qui s'appelle Lilas. Donc voilà, je pense que c'est lié.
On est ravis de ce spectacle. Merci Véronique de ce témoignage.
Très bien, je te remercie Claudie.
Les géraniums sont des plantes protectrices bien connues des humains. Au Moyen-Âge, ils éloignent les serpents, comme en témoigne ce curieux dicton « Serpens va pas ou gernunum cra ». Littéralement, les serpents ne vont pas où grandit le géranium. Plantés devant les maisons, ils avertissent les sorcières d'une visite et les pétales s'inclinent dans la direction d'où vient le visiteur. Aujourd'hui encore, l'odeur des géraniums est un puissant répulsif des insectes et notamment des moustiques, ce qui explique sa présence sur les balcons. Dans le sud de la France, on suspend tout autour de la maison des bouquets de géranium rosa pour faire barrage contre les mauvaises choses. De même, les feuilles de géranium servent à lubrifier, grâce à son huile essentielle, tout ce qui sert à fermer dans une maison, comme les serrures. Les croyances populaires affirment ainsi empêcher l'entrée des mauvais esprits. Dans les légendes celtes, la grue symbolise la sagesse car elle dessine dans le ciel les signes de l'alphabet celte. Grâce à ses fleurs en forme de bec de grue, les géraniums servent ainsi d'offrande aux dieux celtes. Impossible de parler des géraniums sans évoquer leur usage thérapeutique très ancien. Le nom de géranium herbarobert est donné en mémoire de l'évêque de Salzbourg qui en divulgue les propriétés homéostatiques au 7e siècle. Plus tard, au 11e siècle, Hildegard de Bingen le conseille comme purgatif. De nos jours, ces mêmes propriétés sont mises à profit pour fabriquer des bains de bouche cicatrisants. En herboristerie, on utilise le géranium robertianum pour son pouvoir antioxydant, antimicrobien, antiseptique et anti-inflammatoire, tout particulièrement efficace pour soulager les mycoses. Que ce soit en tisane ou dans l'alimentation, où les jeunes feuilles sont appréciées en salade ou cuisinées avec d'autres légumes, le géranium prévient les maladies cardiovasculaires, les cancers et contrecarre les effets néfastes de la pollution et d'une mauvaise alimentation sur nos organismes. Manger des plantes sauvages est donc un excellent moyen préventif pour rester en bonne santé. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Enfin, en Afrique du Nord, l'eau de géranium aromatise merveilleusement les pâtisseries orientales. Le cousin africain, le pélargonium, est quant à lui très utilisé en huile essentielle pour repousser les insectes et stimuler le système immunitaire. La racine riche en tanins est efficace contre les affections respiratoires en préventif et en curatif. En guise de conclusion, je vous invite à accueillir le géranium dans vos jardins, car dans la symbolique des fleurs actuelles, le géranium signifie « je vous aime ». Rien de tel qu'un message d'amour en ces temps si agités, n'est-ce pas ? Offrez-vous un nuage d'amour gratuit chez vous. Il est temps de retrouver la chronique Le bonheur est dans les simples avec Laura dans le second volet consacré à la gémothérapie.
Bonjour, dans la dernière émission, nous avions vu le stade idéal donc de récolte pour les bourgeons, l'utilisation donc en gémothérapie. Pour ceci, il va falloir donc utiliser le mettre en macération dans un liquide de base dont on va voir la recette. Donc quand vous partez pour votre cueillette de bourgeons pour faire votre gémeaux, alors vous partez donc avec des bocaux propres et de différentes dimensions. des capsules propres et si possible neuves, un marqueur indélébile ou des étiquettes et un crayon, et le liquide de macération. Alors généralement, le mélange, c'est alcool fort à 90, eau et glycérine à partie égale. En fait, cette recette, c'est celle qui va être utilisée donc pour l'industrie pharmaceutique. Nous ici, on va s'intéresser à une recette en fait avec ce qu'on va trouver de disponible dans notre cuisine. Donc pour l'alcool, on va choisir un alcool qui titre à 40-45 degrés. Donc une eau de vie ou dans l'idéal un cognac. Alors une eau de vie, prune, poire, on peut, mais avec certains bourgeons, l'association, elle va pas être terrible. Donc le goût va pas avoir, on va pas avoir un bon rendu. Donc vraiment dans l'idéal, c'est un alcool bio bien sûr, donc de vin comme le cognac. C'est vraiment cet alcool qui sera l'idéal. Et on va utiliser donc soit un miel, soit du sirop d'agave. Donc le miel que vous allez choisir, ce sera du sapin ou de la cassia. C'est un miel qui va rester liquide. C'est donc on fait bien attention à prendre un miel donc la cassia dans l'idéal ou un sirop d'agave. Donc pour préparer ce liquide de macération, vous allez donc utiliser un tiers de miel ou de sirop d'agave et deux tiers d'alcool. Donc dans un récipient type le parfait. Donc en exemple, vous pouvez mettre donc 200 g de miel pour 400 g d'alcool. Quand vous remplirez donc votre bocal de vos bourgeons, vous allez remplir à 3/4 votre bocal et couvrir vos bourgeons donc de ce mélange. Donc il va falloir choisir un récipient qui va être adapté. Moins il y aura d'air, moins on aura d'oxydation. Cette préparation, vous allez la garder pendant minimum 21 jours dans un endroit noir, donc à l'abri de la lumière, et vous allez le mélanger, donc la dynamiser, cette préparation, tous les jours dans l'idéal. Après 21 jours minimum, vous allez filtrer cette préparation, alors soit à travers un linge, soit à l'aide d'un filtre à café par exemple, et mettre donc ce que vous allez obtenir dans des petits flacons compte-gouttes que vous allez pouvoir vous procurer en pharmacie, donc de qualité alimentaire. Les flacons compte-gouttes, ça vont être assez pratiques puisque vous allez utiliser donc cette gémothérapie à raison de 5 à 15 gouttes de cette préparation diluée dans un petit verre d'eau 3 fois par jour. Bon, je vous conseille bien sûr de vous renseigner sur la posologie, donc l'utilisation de ceci. Voilà, merci, au revoir.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie sur Radio G 101.5 FM. Laura, Christelle et moi vous donnons rendez-vous vendredi 19 mai à 13h pour découvrir la magnifique et redoutable Digitale.
Maman Conicolo. Oh,